Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire.
Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. Marianne Paquette qui vous accompagne au cours de ces 30 prochaines minutes. C'est bon pour la santé sur Canal M, la dernière de la semaine, déjà vendredi. On est content. Bon, vous vous en doutez un petit peu. Si vous m'écoutez, vous savez très bien que je suis animatrice de radio. Donc, pour moi, trouver le mot juste, communiquer de façon orale, poser des questions, les comprendre, y répondre, c'est mon gagne-pain, c'est mon quotidien, c'est ma réalité. Donc, évidemment, quand je pense que je pourrais perdre cette faculté-là de m'exprimer aisément, je me sens plutôt interpellée. Récemment, j'ai été bien, bien touchée, très curieuse d'apprendre que les gens aphasiques, donc des gens qui ont perdu l'usage de la parole, il y en a à peu près 100 000 au Canada, pouvaient quand même chanter. Et je me suis intéressée, bien sûr, à savoir si le chant peut les aider à retrouver, récupérer le langage des mots. C'est la question que je pose aujourd'hui et ce qu'il y a de très chouette, c'est que je garde ces dames tout le long des 30 minutes. On fait une émission spéciale aujourd'hui sur la réadaptation par le chant des personnes, pour les personnes aphasiques avec Louise Bourbonnais, elle directrice générale de l'Association québécoise des personnes aphasiques, Christine Quentin, musicienne et chef de chœur de la chorale Le Chœur de l'aphasie et Anna Zumbenzen, orthophoniste à l'Université de Montréal et pour le BRAMS également. Je vous les présente dans quelques instants. Bonjour, mesdames.
Bonjour.
Bonjour.
Louise Bourbonnais.
Bonjour.
Anna Zumbenzen.
Bonjour.
Je prononce bien votre nom de famille?
Ah oui, très, très bien.
Ah, génial. Et Christine Quentin, qui est à Québec. Bonjour, Christine.
Bon.
Vous êtes là, Christine?
Oui.
Bonjour. Première question, je voulais débuter avec Madame Bourbonnais. Cette idée de la chorale, elle est venue comment et ça fait combien de temps qu'elle existe?
La chorale existe, je crois, depuis 11 ans et l'idée est venue, je crois, de Christine Quentin. Je pense que c'est à elle qu'il faudrait demander comment elle a débuté avec les personnes aphasiques.
On vous passe le relais, Christine.
Oui, bien moi j'avais un cousin, Patrick Demers, qui était qui a eu dans son cas une tumeur au cerveau et qui est devenu aphasique dans la trentaine et qui voulait chanter avec des chœurs de jazz local que je dirigeais, mais on a vu que c'était un peu difficile de suivre. Alors on a voulu créer un groupe qui soit un peu plus homogène avec des gens qui partagent les mêmes difficultés. Et comme lui fréquentait déjà le QPA à ce moment-là, on a parlé au directeur Alain Lamour qui était là et à l'orthopédagogue Monique Michaud qui était là. Et nous avons on a eu cette idée-là de partir un groupe qui soit avec des personnes aphasiques.
Donc, en plus, vous, en tant que musicienne, chanteuse, vous étiez davantage interpellée par ça?
Oui, ben c'est certain que je trouvais ça hyper intéressant parce que c'est un beau défi, premièrement, mais c'est aussi un bonheur de pouvoir partager quelque chose qui, moi, dans ma vie, est important, de pouvoir le partager avec des gens qui ont peut-être plus cette opportunité-là. Là,
ma prochaine pouvoir. Question, parce que, évidemment, ça me rend très curieuse, Anna, peut-être vous pourriez répondre. Comment une personne, donc, aphasique, qui a perdu l'usage de la parole, trouble du langage, peut avoir de la difficulté à s'exprimer, à parler, à trouver le bon mot, mais à chanter?
Alors pour ça, il faut rappeler que l'aphasie, c'est un trouble du langage qui est lié à une lésion cérébrale. La plupart du temps, dans l'hémisphère cérébral gauche, dans les régions qui sont liées au traitement du langage. Or, les habiletés musicales, on sait qu'elles elles sont traitées avec un réseau neuronal dans le cerveau qui ne se recouvre pas complètement avec le réseau neuronal lié au langage. Okay. Donc ça explique les habiletés musicales des personnes aphasiques. Alors évidemment, ça dépend des lésions cérébrales, donc toutes les personnes aphasiques ne peuvent pas avoir leurs habiletés musicales préservées, mais la plupart du temps quand même, on trouve une certaine préservation de ces habiletés musicales. La deuxième question à poser, c'est, ok, les personnes aphasiques ont des habiletés musicales, mais est-ce que lorsqu'elles chantent, elles arrivent à produire les paroles mieux que lorsqu'elle parle. Et donc, en fait, il a été démontré, notamment dans mon laboratoire, au laboratoire BRAMS, qui est dirigé par Isabelle Perrette et Robert Zatoré, deux grands chercheurs dans ce domaine-là, Donc, il a été démontré que les personnes aphasiques prononcent mieux les mots lorsque elles les chantent dans des chants qui leur sont familiers, donc des chants qu'elles connaissent bien, mais aussi lorsqu'elles chantent des paroles qu'elles ne connaissaient pas avant, mais en condition de chant choral. Alors là, on a deux occasions gagnantes, en fait, pour les personnes aphasiques dans une chorale, parce que la plupart du temps, elles vont chanter des chants qu'elles connaissent bien, et elles les chantent en condition de chant choral.
Oui. Christine, est-ce que le répertoire que vous choisissez va en ce sens?
Oui, c'est certain qu'on... Moi, je pars vraiment des choristes pour trouver le répertoire. On va chercher des pièces qui souvent ont été connues avant l'AVC ou qui sont connues depuis longtemps de la part des choristes. Et donc c'est plus facile pour eux à ce moment-là. C'est sûr que je vais choisir des pièces qui sont parfois un peu plus lentes ou on va les adapter de façon à ce qu'elles soient plus faciles à chanter au niveau de la vitesse. Mais ceci dit, on se lance des défis aussi, puis parfois on va chercher quelque chose de complètement nouveau ou on prend des pièces dont le débit est plus rapide aussi.
Est-ce que vous les consultez, c'est-à-dire vous leur demandez qu'est-ce que vous aimeriez chanter, qu'est-ce que vous chantiez quand vous étiez enfant, par exemple?
Oui, ben on en parle, on choisit ensemble, puis moi aussi j'apporte parfois des idées, puis on voit si ça fonctionne ou pas. Des fois c'est de l'essai-erreur aussi. On voit avec le groupe parce que, vous savez, on parle de chansons qui ont été connues avant, mais il faut se dire que au-delà de l'AVC, chaque personne a un bagage musical qui est différent. Donc il y a aussi ça, on peut dire, moi je connais ça, l'autre ne connaît pas, puis faut aller aussi dans le sens des expériences musicales des gens qui
les expériences,
là.
Les goûts également. Oui, est-ce que ce sont des gens qui ont chanté avant dans leur vie?
Il y en a que oui, il y en a que non. Étonnamment, il y en a qui ne chantaient pas nécessairement avant puis qui ont pris goût parce que ils ont essayé. Habituellement, c'est de réussir à les convaincre de se lancer, de venir essayer. Il y en a qui vont dire, moi, j'ai jamais chanté, pourquoi je commencerais? Puis finalement, ils ont la piqûre. Donc, c'est très valorisant parce que de réussir à émettre, à produire des sons avec des paroles et tout ça, suite à un AVC ou en tout cas dans la condition d'aphasie, c'est très, très valorisant. Donc, il y a le plaisir de chanter, mais il y a le plaisir aussi de se réaliser puis de se dépasser.
On parle d'aphasie, bien sûr, d'AVC également. Est-ce que c'est la principale cause, Anna, l'AVC qui cause l'aphasie?
C'est une des causes, très, très répandues. Il faut savoir qu'il y a à peu près un peu plus d'un tiers des personnes qui font un accident vasculaire cérébral qui ont une aphasie. Donc, ça représente un chiffre énorme. Après ça, il y a d'autres raisons de lésions cérébrales dans les zones qui traitent le langage. Donc, ça peut être un traumatisme crânien, ça peut être une tumeur, ça peut être toutes sortes de raisons. Également, dans certaines démences, en fait, quand le mécanisme lésionnel de la démence se développe dans les zones où est traité le langage, dans ce cas-là, on voit apparaître également un trouble du langage.
Donc, l'aphasie peut toucher tout le monde, hommes, femmes, de tous âges, des enfants également?
Absolument. S'ils ont acquis le langage et qu'ensuite ils ont une lésion cérébrale qui leur fait perdre ce langage, on parle d'aphasie.
Oui, parce que c'est bien ce que vous spécifiez là, Anna. L'aphasie, c'est attribué à des gens qui ont appris le langage, c'est-à-dire qu'ils savent parler, et après, ça les touche, en fait.
Absolument. C'est comme ça qu'on pourrait... On dit que c'est un trouble acquis, par opposition à un trouble développemental, comme par exemple une difficulté de développement du langage chez l'enfant.
Oui. Louise Bourbonnais, je disais tout à l'heure, 100 000 personnes au Canada, c'est un chiffre exact?
Probablement, oui. On peut dire qu'une personne sur trois, donc, a une aphasie. Au Québec, on calcule qu'il y en a entre 3 000 et 4 000 de plus chaque année.
Et là là.
Ça voudrait dire 10 personnes par jour qui deviennent aphasiques.
C'est énorme.
C'est considérable. Il y a plus de personnes aphasiques que de personnes atteintes de Parkinson, mais l'aphasie est moins connue parce que celle-là, ces personnes-là ne sont pas là pour parler d'elles-mêmes. Nous devons le faire. C'est pour ça que l'Association des personnes aphasiques existe.
C'est un point auquel je n'avais pas pensé, Louise. En effet, il n'y a pas de porte-parole. Souvent, quand on parle d'Alzheimer, de Parkinson, de cancer, il y a un porte-parole souvent connu. reconnu, qui peut s'exprimer, parler de son quotidien avec cette limitation ou cette maladie. C'est vrai que dans le cas de l'aphasie, c'est moins possible.
Il y a une dizaine d'années, M. Yvon Dufour, qui était un comédien connu, était devenu aphasique et s'était présenté comme porte-parole. Guy Nadon, dont le frère fut aphasique, et aussi porte-parole, ainsi que Normand Goujon. Lui n'est pas aphasique, mais nous recrutons des gens qui ont une sensibilité, soit parce qu'il y a quelqu'un dans leur famille qui est devenu aphasique, ou des amis. Alors, nous avons maintenant un porte-parole à la Fondation Maison de l'aphasie, et c'est Normand Goujon et Guy Nadon ensemble.
Oui, et on le salue, M. Goujon, parce que c'est grâce à lui, si j'ai eu vent, qu'une chorale existait et que j'ai été interpellée par ce sujet-là. Je reviens à Christine. On parlait d'enfants tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a dans la chorale?
Non, nous, c'est vraiment... Je dirais les plus jeunes choristes que j'ai eus étaient dans la vingtaine, il y a quelques années. Bien que je sais pas, là, dans les choristes que j'ai, j'en ai un qui peut-être a été aphasique plus tôt que ça. Mais moi, qui ont fréquenté la chorale, là, disons que les plus jeunes étaient dans la vingtaine.
Ça fait 11 ans que ça existe. Il y en a combien, en fait, il y a combien de choristes dans votre chorale, Christine?
Oh! Je devrais demander à Louise qui est inscrit, parce que, bon, on a plusieurs choristes. Parfois, il y en a qui peuvent venir pendant un bout de temps, arrêter parce que ils ont des problèmes de santé. Ils ont une santé parfois plus fragile que nous. Donc, c'est ça. Donc, je dirais entre 20 et 25, peut-être.
Oui, c'est exact. On a une chorale qui donne des concerts, mais on a aussi un petit chœur. Parce que pour joindre un grand chœur qui sait déjà un certain répertoire, on a mis avec Christine sur pied un chœur qui leur permet de répéter lentement à un rythme qui convient aux débutants, une partie du répertoire. Donc, les gens qui voudraient faire partie d'un chœur de personnes aphasiques, on les introduit graduellement au répertoire, de sorte qu'ils puissent se joindre au grand chœur pour les concerts.
Oui, parce que j'imagine qu'ils ont certaines difficultés au départ. Ils sont confrontés à leurs propres limites. Ça se passe comment? Je reviens avec vous, Christine. Ça se passe comment, cet apprentissage-là, ce contact-là avec la musique et avec le chant?
C'est très différent, je pense, pour chaque personne, mais... en général, je dirais que ben souvent, les gens vont peut-être regarder les autres autour quand ils viennent d'arriver et ils disent « Bon, toi, ça fait combien de temps? » Ou « Est-ce que maintenant, tu fais ça? » Des fois, il y a une comparaison qui se fait. Parfois, il y a simplement de la surprise de voir que « Oh, il y a des choses qui sortent, puis qui sortent plus aisément. » Mais je pense que le plus important dans les premiers contacts des gens quand ils viennent à la chorale, c'est l'atmosphère puis c'est l'accueil. Parce que c'est aussi une activité sociale. Ouais. Et la socialisation là-dedans est très importante parce que communiquer, en fait, il faut quelqu'un pour communiquer. On communique pas avec soi-même, on ne soliloque pas. Non. Donc c'est comme un incitatif à communiquer parce qu'on arrive, on est avec un groupe de personnes. Les gens s'intéressent les uns aux autres. Donc, moi, je pense que vraiment, l'important, c'est l'accueil, c'est l'atmosphère. Puis après ça, on utilise le moyen du chant choral pour avancer là-dedans.
Anna, vous avez, je tiens à le souligner, c'est quand même pas rien, vous avez remis votre projet de thèse.
Oui, j'ai soutenu ma thèse.
Vous avez soutenu votre thèse, c'est le terme exact, qui porte sur les bénéfices du chant dans la réadaptation des personnes aphasiques. Oui. Est-ce que vous avez assisté à des répétitions ou à des spectacles du chœur?
Bien sûr.
Oui, hein, j'imagine.
Bien sûr, je les connais tous, les choristes.
Et ce dont Christine parlait, de cet accueil, de l'ambiance, c'est aussi ce que vous avez dénoté?
Absolument. En fait, il y a des recherches qui ont déjà documenté que des personnes aphasiques qui participent à des chorales, il y en a plusieurs dans le monde, hein, mais donc il faut le souligner, c'est une activité à succès. Donc il a été documenté que les choristes et également les proches de ces personnes aphasiques-là remarquent des changements dans la communication des gens. Remarquent également une amélioration de leur bien-être psychologique. Alors, Christine parlait de l'aspect social de la chorale. Ah oui, absolument. Le contact avec les autres est extrêmement important. En fait, n'importe qui peut imaginer une personne aphasique se retrouverait comme si vous vous retrouviez dans un pays dont vous ne parlez pas la langue.
Ouais.
Alors, vous comprenez ce qui se passe autour de vous, mais vous ne comprenez pas ce qui vous est dit et vous n'arrivez pas à vous exprimer. Donc, la socialisation dans une activité de groupe comme la chorale, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mmh. Ça permet de reprendre contact avec d'autres personnes en dehors de son cercle restreint de proches. Donc oui, vraiment, c'est un aspect à souligner.
Et si j'entends bien, on n'arrive pas à s'exprimer et par l'oral et par l'écrit aussi parfois.
Oui, il faut le redire, effectivement, un trouble du langage touche le langage, qu'il soit parlé ou écrit, mm-hmm. hein, donc l'écrit également.
Uh-huh. Ces personnes-là qui sont touchées par l'aphasie, elles font comment justement pour communiquer avec leur enfant, leur conjoint? Est-ce qu'il y a des alternatives, des façons pour leur donner des outils?
Oui, alors c'est le travail des orthophonistes, beaucoup. Bien sûr, elles travaillent à aider la récupération du langage, mais elles travaillent aussi beaucoup sur l'aspect de compensation par d'autres moyens. Alors, on est à la radio, donc là, on va pouvoir donner l'exemple de la différence entre la communication verbale et non-verbale. Ouais, à la radio, vous ne voyez pas ma communication non-verbale.
Christine, on vous fait des grimaces depuis tantôt, mais vous ne voyez pas.
Donc, les personnes aphasiques sont encouragées par les orthophonistes, notamment à davantage reposer leur communication sur le non-verbal pour soutenir leur communication verbale, par exemple.
Mmh. Je reviens à vous, Christine. Je reviens à cette ambiance, à cette atmosphère que vous nommiez tout à l'heure. Bon, c'est combien de répétitions que ça requiert avec vous pour tous les participants à la chorale?
Ben, en fait, on se rencontre une fois par semaine, un après-midi par semaine.
OK.
Puis pour les gens qui fréquentent aussi le petit cœur, ben, à ce moment-là, ils viennent aussi l'avant-midi. Donc, ils ont une journée chorale.
Puis, et vous... Oui, pardon, continue.
Oui, c'est ça. Puis c'est suivi par des concerts, là. C'est aléatoire. C'est-à-dire qu'on en a à certaines périodes, évidemment, plus souvent, là, dans le temps des fêtes ou en fin d'année, là, fin mai-juin.
Et vous les accompagnez au piano?
Oui. Oui, parce que le support du piano est vraiment une aide au niveau harmonique d'avoir cette espèce d'élan-là qui permet de soutenir l'élan de la phrase. Là. Donc, c'est plus facile pour les gens.
Et on y reviendra, bien sûr, à cet horaire de spectacle, là, parce qu'il y en a quelques-uns qui s'en viennent, bien sûr. On va prendre une courte pause parce que ça fait déjà un petit bout que l'on parle. Je suis avec Anna Zumbenzen, orthophoniste du côté du Brahms de l'Université de Montréal, soutenue également par McGill, l'Université McGill, hein, le Brahms.
Oui, le Brahms est relié à l'Université de Montréal et à l'Université McGill.
Avec Louise Bourbonnais, elle qui est directrice, je vais le dire au complet, je l'ai sous les yeux, oui, directrice générale de l'Association québécoise des personnes aphasiques, et Christine Quentin, musicienne, chef de chœur de la chorale Le Chœur de l'Aphasie. On revient dans quelques instants.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_m.
Autour de cette table, Louise Bourbonnais, Christine Quentin, Anna Zumbenzen, on parle du chant dans la vie des personnes qui vivent avec l'aphasie, et on mettra davantage l'attention en cette deuxième partie d'émission sur la réadaptation, à savoir de quelle façon ça peut les aider. Mais tout juste avant, je reviens avec vous, Louise Bourbonnais. Pendant cette très courte pause, vous m'avez parlé du profil un petit peu des participants à la chorale, c'est-à-dire des gens bon, qui viennent de Montréal. Donc, on le sait, c'est une ville cosmopolite, Montréal, qui viennent d'un petit peu partout dans le monde.
C'est ça. Nous avons parmi nos chanteurs une Mexicaine, un Italien, quelques Haïtiens, pour qui le répertoire francophone populaire n'est pas leur répertoire d'origine. Mm-hmm. Et ils apprennent quand même tout aussi bien que les autres. Peut-être plus lentement, mais ils se glissent dans la chorale pour se rattraper. Le fait de chanter en chœur, c'est ça que ça donne de bon. C'est que si on ne sait pas un mot, on se rattrape à l'autre et mot. Voilà. Et puis on finit par apprendre de nouveaux mots de cette façon-là. On a aussi... Et ce n'est pas seulement des mots. J'aimerais revenir sur l'aspect communication parce que ce que j'ai observé en les regardant chanter et en regardant surtout leur expression du visage, les mots expriment leurs sentiments et c'est souvent des sentiments qu'ils n'arriveraient pas à dire avec des mots comme « je t'aime », mais ils peuvent dire « parlez-moi d'amour » et ils vont chanter très bien. Alors, c'est aussi l'occasion d'exprimer une profondeur qui leur échappe puisque le vocabulaire n'est plus là. Oui. Alors, on leur donne, et c'est quand on les regarde chanter qu'on peut être très, très sensibilisé à l'aphasie. Ils nous servent de carte de visite, en fait.
Et ça doit être extrêmement émouvant. Christine, est-ce que, justement, Mme Bourbonnais le disait, le fait de chanter à plusieurs, ça peut donner de la confiance également?
Oui, bien, il y a un effet d'entraînement certain là-dedans. Puis, comme disait Mme Bourbonnais, ce qu'il y a de rassurant, c'est qu'on n'a pas les mêmes lacunes aux mêmes endroits.
Ouais.
Donc, on peut toujours s'appuyer l'un sur l'autre. Puis je trouve tellement que c'est une belle image de ce qu'est une chorale, que ce soit n'importe quelle chorale que ce soit, qui est un travail d'équipe, qui est une équipe, qui est comme un bateau, en fait, où tout le monde ramerait. On a toujours avantage à ce que l'autre rame quand nous, on n'est pas capable.
Ouais.
Donc, c'est vraiment de l'entraide. C'est une belle image, je trouve.
Anna, venons-en au cœur, finalement, de cette émission-là. Non, c'est-à-dire que c'est un petit jeu de mots, bien sûr. Est-ce que le chant peut aider la réadaptation de la personne aphasique?
Il y a différentes façons de voir ça. Alors, si on parle du chant en dehors d'une chorale, là, on a parlé de l'activité de chorale, il a été démontré que, en fait, une de mes études qui a fait partie de ma thèse a démontré que le chant utilisé dans une thérapie individuelle par une orthophoniste ou un orthophoniste peut vraiment apporter des bénéfices supplémentaires par rapport à une thérapie qui ne comporterait pas de chant pour la récupération du langage. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, évidemment, c'est coûteux. Les thérapies en orthophonie pour le système de santé. Donc, toutes les personnes aphasiques ne peuvent pas bénéficier de thérapies individuelles pendant très longtemps. Alors, on s'est intéressé aussi à savoir si, effectivement, le chant dans une chorale pouvait aider. Alors, on n'a pas terminé, l'étude n'est pas encore publiée, mais ce qu'on peut dire déjà de façon... certaines, c'est que les participants prennent du plaisir.
Oui,
c'est très
bien.
Important. On a parlé un peu de stimulation sociale également, ça c'est un point très important. Également, l'aspect d'accomplissement de soi dans un projet, le fait de monter un répertoire et de le chanter lors d'un concert, c'est quelque chose qui procure aux choristes un sentiment d'accomplissement également. Et puis, on a parlé aussi de l'aspect gratifiant de la parole qui est meilleure en chantant qu'en parlant. Donc, les choristes, en réalisant ça, ont certainement un sentiment de gratification. Mm-hmm. Alors, tous ces éléments positifs-là peuvent être considérés comme vraiment complémentaires par rapport à une thérapie orthophonique individuelle. Donc, pour moi, l'activité de chorale, mais aussi d'autres activités sociales, qui plaisent aux participants sont vraiment quelque chose de complémentaire et d'ailleurs de complètement encouragé par les orthophonistes. Mm-hmm. Voilà. Donc, je voulais vraiment souligner l'aspect de complémentarité, en fait, de l'activité de chorale avec le chant et puis l'activité puis les thérapies, en fait, individuelles d'orthophonie.
Est-ce qu'on peut guérir de l'aphasie?
Alors, il y a des personnes qui récupèrent de façon vraiment étonnante le langage. Maintenant, à partir d'un certain moment, après un AVC, je dirais à partir de 6 mois, 1 an, les progrès sont beaucoup plus lents. Ah. Alors, il y a toujours des progrès possibles, ça c'est important à le souligner, mais les progrès sont plus lents. Donc la personne va vivre plusieurs années, voire sa vie entière avec l'aphasie.
Mm-hmm. Christine, gérer le stress des participants, parce que qui dit spectacle dit représentation devant public, vous faites ça comment?
Je pense que le focus est pas mis là-dessus. Mm-hmm. En fait, on fait une performance. C'est certain que tout le monde veut paraître à son meilleur. Bien, oui. Mais je pense que la première chose à garder en tête, c'est on est là pour avoir du plaisir. Et si on a du plaisir et si on communique avec les gens vont avoir du plaisir.
Oui.
Donc, moi, j'aime faire l'image de dire on n'est pas en train de faire une opération à cœur ouvert. Si on fait une erreur, il n'y a personne qui va mourir.
Oui.
Mais si on a du plaisir, par exemple, on va entraîner beaucoup de gens avec nous à avoir du plaisir.
Certainement. Il y a la fierté des proches également, j'imagine, conjoints, enfants, amis qui font...
Oui.
J'imagine qu'ils sont tellement contents de les voir se produire comme ça, arriver à chanter en toute liberté.
C'est très émouvant, puis c'est arrivé souvent que justement des proches sont revenus après ça nous parler puis nous dire à quel point ils étaient heureux de voir leurs proches dans ces se réaliser comme ça.
Oui.
Puis aussi, on a certains conjoints qui participent à la chorale. Et moi, j'encourage ça fortement parce que c'est une expérience positive. C'est un moment où le conjoint peut partager quelque chose avec son conjoint qui est aphasique,
oui.
De quelque chose de positif. Parce que c'est pas évident pour un conjoint ou pour un proche aidant de devoir vivre ces difficultés-là aussi. On dit qu'il y a la personne aphasique, mais l'entourage aussi vit toutes ces frustrations-là ou ces difficultés-là. Et là, de pouvoir être ensemble, de vivre quelque chose où on n'est pas en train de combattre la difficulté, mais on est en train de se
réaliser. De l'apprivoiser également.
C'est ça, oui. C'est fantastique.
En terminant, Louise Bourbonnais, les horaires des spectacles?
On a un spectacle lundi prochain à la résidence Myland dans l'après-midi vers 2h30 et le mardi, le jour après, au Resto Plateau le matin à partir de 11h30 jusqu'à 1h30.
Mesdames, merci beaucoup. Louise Bourbonnais, directrice générale de l'Association québécoise des personnes aphasiques, aphasique.ca pour plus de détails. Également Christine Quentin, musicienne et chef de chœur de la chorale Le Chœur de l'aphasie, Anna Zumbanzen, orthophoniste au Brahms de l'Université de Montréal, www.brahms.org. Merci beaucoup de votre générosité, de votre temps. Ça a été un plaisir de vous parler aujourd'hui.
Merci.
Merci.
Merci Rémi Hermoso. Bon week-end à tout le monde. Je vous embrasse. On se retrouve lundi. Bye bye.